Je pense pas être resté longtemps dans le coltard, car les rectangles de soleil sur le lino ne semblaient pas avoir bougé. J'avais un goût de cuivre mouillé dans la bouche. J'ai craché du sang à moitié coagulé par terre, avec un fragment de dent, et me suis mis en devoir de me hisser sur mes pieds. Il a fallu que je m'accroche à une chaise de cuisine de ma main valide, puis à la table, qui a failli se renverser sur moi. Mais dans l'ensemble, ça a été plus facile que je croyais. J'avais la jambe gauche engourdie et mon pantalon me serrait là où mon genou était en train d'enfler, comme promis. Mais je me suis dit que ça aurait pu être bien pire. J'ai regardé par la fenêtre pour m'assurer que le fourgon n'était plus là. Puis j'ai entamé un lent voyage claudiquant jusqu'à la chambre. Mon cœur battait à grandes pulsations molles et vertigineuses dans ma poitrine. Chacune d'elles palpitait dans mon nez cassé et faisait vibrer le côté gauche enflé de mon visage où je devais avoir la pommette brisée. L'arrière de ma tête aussi palpitait. J'avais le cou raide. « Ça aurait pu être pire, » me suis-je rappelé tout en me traînant à travers la chambre. « T'es sur tes pieds, pas vrai ? Contente-toi de récupérer ton putain de revolver, mets-le dans ta boîte à gants et conduis-toi aux urgences. T'es quasiment indemne, probablement moins mal en point que Dick Tiger ce matin. » J'ai pu continuer à me raconter ça jusqu'à ce que je tende la main jusqu'à l'étagère en haut du placard. Quand j'ai fait ça, j'ai senti quelque chose s'étirer dans mon ventre, puis rouler. La chaleur sourde ancrée dans mon flanc gauche s'est ravivée, comme des charbons sur lesquels on jette de l'essence. J'ai effleuré du bout des doigts la crosse du pistolet, je l'ai fait pivoter, j'ai crocheté mon pouce dans le pontet et l'ai fait glisser hors de l'étagère. Il a heurté le sol et rebondi dans la chambre. Sans doute même pas chargé. Je me suis penché pour le ramasser. Mon genou gauche a hurlé et m'a lâché. Je suis tombé, et la douleur dans mon ventre s'est de nouveau embrasée. J'ai quand même ramassé le Colt et fait tourner le cylindre. Il était chargé, en définitive. Chacune des chambres. Je l'ai mis dans ma poche, et j'ai tenté de ramper jusqu'à la cuisine, mais mon genou me faisait trop mal. Et mon mal de tête était pire encore, avec ses tentacules noirs qu'il étendait partout depuis sa petite caverne au-dessus de ma nuque. Je suis allé jusqu'au lit, en rampant sur le ventre et en nageant avec les bras. Là, j'ai réussi à me hisser de nouveau en prenant appui sur mon bras droit et ma jambe droite. La jambe gauche tenait encore, mais j'étais en train de perdre la flexion du genou. Je devais me tirer d'ici au plus vite. Quand j'ai retraversé la chambre, puis la cuisine, et rejoint la porte d'entrée ouverte qui pendait sur ses gonds avec des éclats de bois autour de la serrure, je devais ressembler à Chester Good, le shérif adjoint boiteux dans Police des Plaines. Je me souviens même d'avoir pensé « Mr. Dillon, Mr. Dillon !» « Il y a du grabuge au Long Branch Saloon. » J'ai traversé le porche, saisi la rampe dans mon poing droit et descendu en crabe jusqu'à l'allée. Il n'y avait que 4 marches, mais mon mal de tête empirait chaque fois que j'atterrissais avec un à-coup sur la suivante. J'avais l'impression que je perdais ma vision périphérique, ce qui était assurément mauvais. J'ai voulu tourner la tête pour apercevoir ma Chevrolet, mais mon cou a refusé de coopérer. J'ai réussi à pivoter avec tout le corps, et quand j'ai eu la voiture en ligne de mire, je me suis rendu compte qu'il me serait impossible de la conduire. Ne serait-ce qu'ouvrir la portière côté passager et ranger le revolver dans la boîte à gants me serait impossible. Le seul fait de me pencher ferait de nouveau flamber la douleur irradiante que j'avais au flanc. J'ai farfouillé pour retirer le 38 de ma poche. Je me suis tenu d'une main à la rampe et j'ai expédié le revolver sous les marches. Ça irait pour le moment. Je me suis redressé et j'ai entamé ma marche lente vers la rue. Des pas de bébé, je me disais. Des petits pas de bébé. Deux gamins sont arrivés en vélo. J'ai voulu leur dire que j'avais besoin d'aide, mais le seul son que j'ai réussi à sortir de ma bouche enflée fut un... desséché. Ils se sont regardés, puis ont accéléré en faisant un crochet pour m'éviter. J'ai tourné à droite. Obliger mon genou enflé à aller à gauche me semblait la pire idée au monde, et j'ai commencé à longer le trottoir en chancelant. Mon champ de vision continuait à rétrécir, et j'avais maintenant l'impression de guetter à travers une meurtrière ou par l'entrée d'un tunnel. Un moment, ça m'a rappelé la cheminée écroulée de l'aciérie Kitchener à Derry. « Va jusqu'à Haynes Avenue », je me suis dit. « Il y aura de la circulation sur Haynes. Arrive au moins jusque-là. » Mais allais-je vers Haynes ou m'en éloignais-je? Impossible de m'en souvenir. Le monde visible s'était réduit à un cercle d'une quinzaine de centimètres de diamètre. Ma tête éclatait. J'avais un incendie dans le ventre. Quand je suis tombé, j'ai eu l'impression de le faire au ralenti et le trottoir m'a paru aussi mou qu'un oreiller en plume. Avant que je puisse perdre connaissance, quelque chose m'a aiguillonné. Quelque chose de dur et de métallique. Une voix éraillée, à 10 kilomètres au-dessus de moi, a dit « Hé, vous, là! Vous, jeune homme! Qu'est-ce qui vous arrive ?» Je me suis retourné. Il m'a fallu rassembler mes ultimes forces, mais j'y suis arrivé. Me surplombant, se tenait la vieille dame qui m'avait traité de lâche quand j'avais refusé de m'interposer entre Lee et Marina, le jour de la fermeture éclair. On aurait pu être le même jour, car chaleur d'août ou pas, elle était encore en robe de chambre en flanelle rose et veste ouatinée. Ses cheveux en l'air m'ont fait penser à Don King, cette fois, au lieu d'Elsa Lanchester. Peut-être parce que je pensais encore boxe dans ce qui me restait d'esprit. Elle m'avait aiguillonné avec un des pieds avant de son déambulateur.
« Oh, bonté divine !»
elle a fait.
« Qui vous a battu ?»
C'était une longue histoire et je ne pouvais pas la lui raconter. L'obscurité se refermait sur moi et j'en étais soulagé car la douleur dans ma tête me tuait. « Al a eu un cancer du poumon, je pensais. Moi, j'ai eu Akiva Roth. Dans un cas comme dans l'autre, la partie est terminée. Ozzy a gagné. Non, pas si j'avais mon mot à dire. Rassemblant toutes mes forces, je me suis adressé au visage situé loin au-dessus de moi, la seule chose qui demeurait claire au sein de l'obscurité grandissante.
« Appelez le 911. »«
Qu'est-ce que c'est que ça ?» Bien sûr, elle ne savait pas. Le 911 n'avait pas encore été inventé pour les urgences. Je me suis cramponné assez longtemps pour faire une seconde tentative.
« Ambulance !»
Je pense l'avoir répété, mais j'en suis pas sûr. C'est là que l'obscurité m'a englouti. Je me suis demandé depuis si c'était des petits jeunes qui m'avaient volé ma caisse ou les gorilles de Roth. Et quand c'était arrivé? En tout cas, les voleurs ne l'avaient ni vandalisé ni accidenté. D.K. Simmons l'a récupérée à la fourrière de Dallas une semaine plus tard. Elle était en bien meilleur état que moi. Le voyage dans le temps ne manque pas d'ironie.